Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 2 avril. C'est pas un poisson d'avril, c'était hier. On va quand même parler de nourriture, hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, concernant certains aliments, il y a des aliments, en fait, si on les mange seuls, ils sont vraiment pas comestibles. Il y a un goût vraiment très 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 bizarre. Et si on les allie à d'autres aliments, le goût change. Exemple, vous connaissez tous le citron. Le citron, tout seul, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de croquer ça comme une orange, c'est pas terrible, ça pique un peu. Hein, des fois, on peut faire des blagues aux petits bébés qui découvrent le goût, on voit qu'ils font des grimaces, mais bon, ce n'est pas mon cas. En tout cas, le citron tout seul, c'est pas terrible au niveau goût. Mais par contre, si on l'allie à d'autres aliments comme ceci, là, ça passe un peu mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. C'est une tarte au citron meringuée, avec un nom bien compliqué. Et il n'y a pas longtemps, je me faisais la réflexion, mais c'est vrai que la meringue, en fait, elle sert à quelque chose. Au début, je n'étais pas très fan de meringue, et en fait, je me suis rendu compte qu'en alliant le goût de la meringue et le citron, il y avait une utilité. Donc, c'est intéressant. Un autre aliment aussi, tout seul, qui n'est pas tout à fait bon à manger. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. De la moutarde, hein, pareil, on peut faire la blague aux enfants, aux bébés, pas trop parce que c'est un peu fort, mais la moutarde, souvent, la moutarde nous monte au nez, ça pique, et tout seul, c'est pas terrible aussi à manger. Mais si on allie la moutarde à ceci, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un plat de viande, donc la viande à la sauce moutardée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tout de suite, la moutarde, elle a un autre goût. Hein. Et c'est bien d'allier la moutarde ou le citron à des aliments. Et on voit qu'un aliment qui est peut-être peu comestible, qui a peu de goût, finalement, allié à d'autres aliments, ça prend forme. Et bien, dans la parole de Dieu, mes amis, il y a des passages aussi, si nous le prenons seul, qui sont peut-être peu comestibles, qui sont difficiles à lire. Cependant, lorsqu'on ajoute ces passages un peu critiques à d'autres faits qui sont peut-être moins désagréables, il nous est possible de discerner un nouveau goût, de discerner peut-être la volonté de Dieu exposée à travers un récit. Alors, ce matin, nous allons justement lire un de ces passages qui contient des faits qui ne font pas tout à fait plaisir à lire, en fait. Je veux parler de ces réalités bibliques que nous n'aimons pas forcément entendre, car souvent elles peuvent nous mettre mal à l'aise. Donc accrochez-vous à vos chaises. Heureusement, le récit que nous allons lire contient également des sujets de reconnaissance, de réjouissance. Et nous allons voir un petit peu comment ces deux sensibilités peuvent cohabiter. Alors, sans transition, je vais laisser la place à Yvonique, qui va nous lire le texte du jour, qui se trouve dans le chapitre 14 du livre des Actes. Et nous allons lire des versets 23 à 28. Donc, Actes 14, versets 23 à 28.
Des Juifs arrivèrent d'Antioche, d'Iconium, et il parvint à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent nommer pour eux des responsables, et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent au port d'Attalie. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples.
Merci Yvonique. Alors, comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, vous avez pu remarquer que ce texte présentait des éléments qui ne sont pas forcément faciles à lire ou à intégrer en tant que chrétien. Est-ce que vous les avez trouvés ? Je ne vais pas vous questionner. On va essayer de les exposer ce matin. Alors essayons de dégager de ce passage ce qui pourrait nous déranger, avant de relever par la suite des paroles d'encouragement. Alors, pour faciliter la tâche de tous ceux qui prennent des notes ou qui tentent de suivre le déroulement logique de ma pensée, je vais séparer notre étude en deux parties pour tenter d'aboutir à quelques pistes de réflexion qui peuvent alimenter notre foi commune. Donc, pour faciliter cette tâche, j'ai donné des titres à ces deux parties qui sont très simples à retenir comme ça. Lorsque vous allez entendre ces mots, vous allez dire « Ah, c'est bon, là on passe à la seconde partie ». J'ai donné des titres à ces deux parties qui sont simples à retenir. Et ces titres, les voici. Première partie, pour essayer de discerner un petit peu ce qui pique. Pourquoi tant de haine ? Mais pourquoi tant de haine ? Seconde partie que nous allons aborder plus tard, qui va tenter de nous donner quelques encouragements, va s'intituler « Mais pourquoi tant d'amour ? Pourquoi tant d'amour ?» Donc voilà, ça c'est les deux phrases. Lorsque vous allez les entendre, vous allez pouvoir peut-être suivre. Voilà, je pense à moi quand des fois je suis de l'autre côté et j'ai du mal à comprendre. Alors voilà, je me suis dit, j'ai pensé à moi-même et au moins moi je ne serais pas perdu. Voilà. Alors, effectivement, ce passage nous rapporte un épisode de la vie des apôtres qui n'est pas facile à lire. C'est vrai que nous avons l'habitude de chanter dans nos chants. Je serai joyeux, je serai content toujours. Alors en anglais, c'est mieux, c'est forever. Forever, the love of God, je ne sais quel mot. Alors traduit en français, des fois, ça fait un peu bizarre. Mais il y a des réalités, des fois, que nous pouvons aborder, qui sont liées à la foi chrétienne. Et ce passage en particulier nous parle de choses qui ne sont pas faciles à intégrer en tant que chrétien. Nous nous trouvons dans le livre des Actes, qui nous décrit ici un voyage missionnaire effectué par Paul et Barnabas dans différentes provinces. Dans ce voyage missionnaire, l'un des objectifs est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Juifs. Nous apprenons ici que tout ne se déroule pas comme prévu, car des Juifs qui étaient destinataires de ce message se sont retournés contre les apôtres et ont tout simplement lapidé Paul. Mais pourquoi tant de haine ? Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi un serviteur de Dieu qui a pour objectif de faire le bien se retrouve quasiment mort à l'extérieur d'une ville après s'être fait lapider ? Pour essayer de comprendre les raisons d'une telle exécution, il nous faut remonter quelques versets plus haut dans le chapitre qui nous révèle la cause du contentieux. Au verset 7 du chapitre 14, nous apprenons que Paul effectue un miracle. Il guérit un homme paralysé des pieds. Lisons alors la réaction des nombreux assistants à ce miracle. Quand ils virent ce que Paul avait fait, verset 11. Les nombreux assistants crièrent dans leur langue de l'Icaonien. Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus, le dieu suprême dans la mythologie grecque, et Hermès, messager de Dieu. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Amis, que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Par la suite, nous apprenons que Paul et Barnabas eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. C'est là que débute notre récit, où des Juifs arrivent à Antioche et Iconium et retournent la foule contre les apôtres. Quand on évoque la lapidation de Paul, il est peut-être difficile, il faut se l'avouer, de comprendre comment une pratique aussi barbare, le fait de tuer un individu par jet de pierre, a pu être intégrée dans le fonctionnement d'êtres humains normaux. Alors, faisons une petite pause explicative en parlant de la lapidation. Il faut savoir que la lapidation faisait partie du code criminel de la société israélienne antique. La lapidation existait bien avant le code de l'Alliance du Mont Sinaï, mais elle a été intégrée à ce dernier pour sanctionner des crimes considérés comme des offenses à l'ordre public. Alors, parmi ces offenses, nous pouvons citer le meurtre, l'apostasie, l'idolâtrie, le blasphème, la violation du sabbat, l'adultère, l'inceste, et j'en passe. Remarquez que certaines sociétés actuelles, se basant sur une religion monothéiste, héritière du judaïsme, appliquent encore ce mode de traitement, de crime contre l'ordre public. La lapidation vient répondre à une faute commise par un individu, vue comme une maladie au sein de la communauté. Il faut donc s'en débarrasser au plus vite, comme le suggère le passage de Deutéronome 21, verset 21. « Tu ôteras le mal du milieu de toi. » Le ou la coupable était dirigé hors du campement de la ville pour y subir sa sentence. Et la procédure voulait que ce soit les deux premiers témoins du crime qui jetaient les premières pierres. Lorsque le peuple choisissait de lapider, il souhaitait montrer à Dieu sa volonté de rejeter le péché et de réparer l'offense commise. Dans le cas de la lapidation de Paul, il est troublant de remarquer que des Juifs idolâtres de Zeus et Hermès, des dieux grecs, décide de punir Paul par une sanction qui est censée punir l'idolâtrie. Ce qui est sûr, c'est que la haine tire racine dans une offense que la foule a subie lorsque Paul et Barnabas leur a demandé d'adorer le vrai Dieu. Observons comment la foule prête à porter en gloire des individus, change radicalement d'humeur. C'est l'aspect versatile de l'être humain qui peut le faire passer de l'amour à la haine en quelques instants. Ce phénomène existe encore aujourd'hui. Personnellement, il m'arrive de fréquenter certains endroits où j'ai constaté ce phénomène où tout d'un coup, l'être humain change d'avis, il change de sentiment. S'il vous arrive de fréquenter des stades de football, par exemple, on peut constater que pour des faits anodins comme un but pris, une défaite, une action, un contrôle raté, eh ben, des supporters peuvent passer de tout au rien. Il m'est arrivé dernièrement, pas au stade, mais devant ma télévision, mais c'était presque pareil, de passer du tout au rien par rapport à une défaite récemment. Et ces joueurs, je les ai aimés tout d'un coup, et tout a basculé vers la 94e minute. Et je ressentis vraiment de la haine. Et je crois que j'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de supporters qui se sont mis à conspuer des joueurs de foot alors que 5 minutes avant, c'était la gagne. L'être humain est versatile. Et on voit bien qu'il est très très peu fiable, finalement. À qui faut-il faire confiance? Dans le cas de Paul et Barnabas, nous voyons que cette haine est le symbole d'une résistance. C'est une résistance à l'amour de Dieu. N'est-il pas courant de recevoir le mal alors que nous arrivons avec du bien auprès d'autrui? Cette réalité de persécution est souvent le signe que nous sommes dans le vrai. Car l'ennemi a pour mission de chasser les messagers de Dieu des endroits qu'il considère acquis à sa cause. Aussi, les épreuves subies par un croyant le rattachent au Christ qui a tout subi pour que nous ayons la vie éternelle. Ces épreuves sont comme des cicatrices qui nous rappellent et nous lient à Christ. Elles sont inévitables, certes, mais ont un but pédagogique, comme nous rappelle le verset dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13. « Mes amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Alors là, nous touchons au verset moutarde ou au verset citron. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce passage ou ces passages qui sont difficiles à lire et à digérer. Le fait de légitimer la souffrance et l'épreuve, pas facile à avaler. Afin d'être rempli de joie, difficile à intégrer. Outre l'épisode de la lapidation, ce passage nous propose d'autres attitudes qui peuvent également nous interpeller. Au verset 21 du chapitre 14, nous apprenons que Paul décide de revenir à Iconium et Antioche, endroit d'où proviennent les Juifs qui l'ont lapidé. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Je ne sais pas si vous avez subi déjà une lapidation, pas moi. Je pense que ça doit faire mal, plus que mal même. Et l'idée de savoir que Paul soit revenu sur les lieux où il a souffert me dérange très très fortement. Ça m'interpelle. Est-il fou ? Est-il inconscient ? Stupide ? Personnellement, j'ai une fascination pour ces chrétiens qui s'engagent dans des contextes dangereux. Nous avons eu, il y a quelques années, un pasteur nommé Randy Harrison, qui avait des enfants, qui était très proche de moi. On avait à peu près les mêmes âges. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en contact. Et j'ai remarqué que ces enfants de pasteurs américains ont le loisir de choisir des lieux de vie assez dangereux. Tiens, si on partait au Yémen, ah, d'accord. Bon, cette fois-ci, on va plutôt du côté de Zanzibar. En Zanzibar, on se dit que c'est bien. Mais Zanzibar est quand même une terre relativement musulmane avec des précautions à prendre lorsqu'on veut exprimer sa foi de chrétien. Plus près de nous, notre jeune sœur Anna Baudet est partie faire un voyage missionnaire au Niger, elle y est encore. Et c'est vrai que ses choix, personnellement, me fascinent. Tout comme Paul m'intrigue fortement. Dans ses choix, chers amis, il n'y a ni mépris du danger, ni goût du risque. Il n'y a ici qu'une expression assez singulière de l'amour. Alors, pourquoi tant d'amour ? Pourquoi tant d'amour ? Heureusement pour nos apôtres, leur voyage missionnaire a obtenu certains résultats malgré des tribulations, et nous voyons que de nouvelles communautés, avec de nouveaux convertis, se sont créées. Et Dieu a mis dans le cœur des apôtres le souci de ces communautés fragiles. Dieu a mis dans le cœur des apôtres ces communautés. De là vient cette nécessité de retourner sur les terres visitées. En plus d'opérer un détour illogique dans leur parcours missionnaire, nous voyons que les apôtres ne laissent aucune place pour des calculs concernant leur sécurité ou davantage personnel. Ils ont pour objectif d'accomplir leur mission dans la fidélité de Dieu. Ils sont comme programmés. Alors cette notion d'être programmé pour un objectif m'interpelle vraiment. Et il n'y a pas longtemps, je regardais une interview d'un joueur de foot que tout le monde connaît, qui s'appelle Thierry Henry. Et vous savez, c'est la personne qui a mis la main dans un match et la France a été un peu honteuse, etc. Et suite à cette main face à l'Irlande, ce joueur s'est exilé en Angleterre. Enfin, il ne s'est pas exilé, mais il jouait déjà en Angleterre. Et il a coupé tout contact avec les médias français. Et finalement, là, dans cette interview, il renouait un petit peu avec les médias français et il expliquait un peu sa posture. Et à un moment, on l'interpelle en disant « Mais Thierry Henry, mais vous étiez très, très peu ouvert à la presse. Vous étiez vraiment omnibulé. » Et il dit « Vous savez, quand j'étais joueur, moi, j'étais programmé. J'étais programmé, j'étais dans mon monde. Je voulais que marquer. » Et aujourd'hui, voilà, je suis sorti de cette posture. Et j'aime bien cette idée d'être programmé et d'avoir un objectif qui est en décalage avec ce que la société peut-être nous propose. Paul et Barnabas ont été programmés pour accomplir la mission dans la fidélité à Dieu. Mais pourquoi tant d'amour ? Là aussi, il est difficile de comprendre comment un simple être humain peut être capable d'autant de dévotion dans une tâche aussi ardue. Mais observons ce phénomène. Nous avons vu, pendant la lapidation, comment l'ennemi a réussi à endurcir le cœur d'une foule de façon surprenante. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu est capable de donner du courage et de l'amour de manière insoupçonnée à des hommes et des femmes qui ont décidé de le suivre. Pour tenter de comprendre ce phénomène, arrêtons-nous quelques instants sur l'histoire personnelle de Paul, anciennement appelé Saul. Dans Actes 8, nous lisons que Paul avait approuvé l'exécution par lapidation d'Étienne, qui fut sans doute l'un des premiers chrétiens, on peut dire martyr, par la lapidation. Paul, ou Saul. Dans Acte 9, nous lisons que Saul, le persécuteur, alors qu'il se rendait à Damas pour emprisonner et ramener des chrétiens à Jérusalem, fut interpellé par Jésus lui-même. Jésus le rendit aveugle jusqu'à ce que le Saint-Esprit, qu'il reçut à Damas lui fasse recouvrer la vue chez ces mêmes chrétiens qu'il cherchait à nuire. C'est d'une rencontre personnelle avec le Christ que Saul, devenu Paul, a saisi l'amour qu'il avait reçu de Jésus et des chrétiens qui l'ont entouré. Cet amour-là, il ne l'a pas gardé pour lui. En effet, Dieu a réutilisé les qualités de Paul pour partager son amour aux croyants. Nous l'avons vu, Saul était jusqu'au boutiste. Ses qualités, il les a transférées et transformées pour que Paul soit aussi jusqu'au boutiste, mais dans une autre entreprise, qui est celle d'aller en mission pour Jésus. Arrêtons-nous quelques instants sur cette rencontre personnelle avec le Christ. Mais qu'a dû ressentir Paul au moment où Jésus l'interpelle ? Qu'a-t-il dû ressentir lorsque Jésus l'a pardonné et aimé alors qu'il avait validé l'exécution d'Étienne ou d'autres campagnes, non pas d'évangélisation, mais de persécution ? Qu'a dû ressentir Paul lorsqu'il s'est rendu compte qu'on ne l'a pas jugé à la hauteur de ses péchés, mais que bien au contraire, une deuxième chance lui a été accordée. Là, on arrive à la tarte meringuée. Jésus est celui qui change le mal en bien. Il est celui qui vient annuler la sentence de lapidation que nous méritons à cause de nos fautes. C'est très intéressant de repenser un peu au protocole qui incitait les deux premiers témoins d'un crime à jeter les premières pierres. Ça fait écho à une phrase. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Rétorque Jésus au premier témoin d'un crime d'une femme adultère. Voilà d'où provient l'amour et le zèle exprimé chez Paul et Barnabas. C'est l'expression d'une joie et d'une reconnaissance d'être aimé et sauvé par Dieu le Père par l'action expiatoire de Jésus. Ce ne sont pas que des mots doux, mais bel et bien des vérités qui se sont déclinées par des engagements très concrets. Alors comment s'est décliné cet amour ? Nous savons que dans leur seconde mission auprès des nouvelles communautés, Paul et Barnabas ont eu le souci d'encourager, d'enseigner, de guider et apaiser selon les besoins. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à quitter leur zone de confort. Dans un premier temps, ils se sont exposés à annoncer un message qui était à contre-courant par rapport à la foi hébraïque, qui était basée sur des actes. Ils sont restés intègres dans leur croyance lorsque les êtres humains ont essayé d'introduire des divinités païennes. Et cela a dû forcément servir d'exemple aux jeunes convertis qui eux aussi étaient exposés à des mœurs religieuses différentes. Enfin, ils ont persévéré dans leur engagement, bien que cela leur a coûté beaucoup au niveau de leur sécurité. Notons une chose, cette exposition à contre-courant, cette intégrité d'action et cette persévérance sont aussi les marques de fabrique d'un certain Jésus, un homme que ses disciples ont choisi de suivre et d'imiter pour impacter leur société. Cet amour, au final, n'est qu'un pâle reflet de ce que Jésus a fait à cette époque, ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il fera encore demain. Le croyons-nous encore aujourd'hui, chère Église de Melun ? Ce Jésus est-il capable de renverser des vies encore aujourd'hui ? Alors, chère Église, à quoi sommes-nous appelés? Force est de constater que nous ne nous trouvons pas dans les conditions extrêmes de persécution qu'ont vécu Paul et Barnabas. Personne ne va venir dans ce temple nous jeter des pierres parce que nous proclamons le nom de Jésus. En tout cas, si cette personne veut venir, il faut qu'elle ait beaucoup de pierres. Mais est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas nous sentir concernés par un appel à servir Dieu dans un contexte hors de la France, dans des zones à risque, ou prier pour nos frères qui servent et qui vivent dans ces conditions. Quoi qu'il en soit, il me semble que nous avons à notre niveau l'occasion de sortir de nos zones de confort. L'héritage de la grâce que nous laisse Jésus-Christ est étroitement lié à un don de soi. Car en tant que suiveurs du Christ, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons entièrement à notre Seigneur. Dans cette perspective, nous sommes donc appelés à souffrir avec lui en nous donnant à sa cause, à notre cause, de manière intégrale. Tout comme Saul, le pécheur, fut interpellé par Jésus avec ses spécificités, nous sommes aussi interpellés par Dieu le Père pour faire avancer son royaume sur terre. En attendant des jours meilleurs où tous les croyants seront réunis auprès du Créateur. Pour conclure, j'aurais aimé vous donner les 12 conseils qui feraient de vous les chrétiens accomplis et engagés. J'aurais aimé vous donner la brochure explicative de l'engagement du chrétien pour les nuls, mais elle n'a pas encore été rédigée. Cependant, je souhaiterais reprendre avec vous ce que le texte du jour nous livre sur ce que faisaient concrètement les apôtres. Parce que c'est vrai, concrètement, qu'ont-ils fait? Au verset 23 du chapitre 14 que nous avons lu, nous apprenons que les apôtres ont eu le souci de la vie interne des jeunes communautés. Ils se sont attelés à la structuration des églises en nommant des responsables. Nous relevons aussi qu'ils ont prié, ils ont jeûné, et ils ont remis les jeunes croyants au Seigneur. Au verset 25, nous avons des indications supplémentaires sur des actions qui sont ouvertes vers l'extérieur, avec l'annonce de la parole aux Juifs, mais aussi l'ouverture de cette communauté aux non-juifs. Alors, ce n'est pas un scoop que je vous livre, mais il se peut que la vision de l'Église de Melun reprenne ses axes de travail internes et externes de la vie d'une communauté chrétienne. Ce projet de structuration, d'intercession, et d'ouverture vers l'extérieur ne peut être décliné qu'avec le concours des croyants que nous formons ici même. Quels sont alors les détours que Dieu me demande de faire dans mon voyage sur terre pour accomplir la mission à laquelle il m'a appelé? Dans quelle mesure le fait de participer à la structuration de mon Église pourrait me demander un effort supplémentaire? Accessoirement, quel rôle joue la prière dans ma vie de chrétien engagé? Comment pourrais-je sortir de ma zone de confort pour aider mon Église à s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur? Toutes ces questions, nous avons l'occasion de chercher à y répondre ensemble, comme l'a montré l'Assemblée générale de dimanche dernier, Mais en guise d'encouragement, chère Église, et je terminerai là-dessus, en confiant notre vie à Christ, nous avons la certitude d'être acceptés tels que nous sommes, comme Paul l'a été. Certains d'entre vous sont jusqu'à bouddhistes, certains sont maniaques, certains sont ordonnés. Ce sont des défauts, des fois, qu'on présente à certains entretiens d'embauche. Oui, moi, je suis perfectionniste, pour que l'employeur puisse comprendre que ces défauts sont des qualités. Avec Jésus, on n'a pas besoin de trafiquer nos qualités ou nos défauts parce qu'il les prend entièrement et il nous accepte tels que nous sommes. Il nous intègre dans son plan. Alors, ne nous privons pas de mettre nos particularités au service de celui qui nous a créés à son image. Amen.